Vous écoutez
RMC.
RMC.
Viry Châtillon, Sucy en Brie. Coup d'envoi 2h. On gagne 6-0, je mets les 6 buts.
J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronnie Lopez. Il demandait pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR. Mais la VAR ne fonctionnait pas. Et elle s'est remis à fonctionner juste après. Bizarre.
Dernier mot, Fabregas. Là, j'ai aucune info. Vous devez savoir.
Ah, je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien. Il était chez lui. Donc voilà.
Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
L'after avec Daniel, avec Flo. RMC 23h02. On est ensemble jusqu'à minuit. Tout à l'heure, on parlera de Marseille-PSG. Dimanche soir, 20h45, avec des infos infirmerie côté marseillais. D'abord, on continue et on termine sur l'équipe de France. Flo, tu voulais évoquer un cas précis qu'on avait commencé à évoquer hier soir d'ailleurs. Tu demandes à ce que Deschamps sorte de son placard le 3-5-2 qu'il avait essayé ces trois dernières années. Jingle, Flo Gautreau.
Il est bien celui-là.
Il est bien celui-là.
Ils sont revenus, le morse entre les dents pour venger leur copain blessé. On a perdu. C'est un nouveau ça.
Ouais, c'est bien.
Oui, ça me va bien. Le morse entre les dents, c'est quelque chose qui me parle. En termes pique, t'as pas la compo du Chili, toi?
Non.
Javier Carnet, tu sais pas s'il va jouer demain.
Non, c'est nul.
Bon, on n'aura pas un Chili con carnet alors.
C'est mauvais.
Non, donc, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la phrase de Griezmann avant de jouer le Chili.
Elle t'a marqué celle-là. Hein. C'est dingue.
J'adore cette phrase. El chileno es un gagón.
Traduction.
Ah, oui. C'est fait dessus, quoi.
On a compris. Vas-y.
Bon, je ne parle pas espagnol. Oui, non, je voulais revenir sur. En fait, c'est le débat d'hier qui m'a fait réfléchir en me disant qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce qu'il faut s'entêter, entre guillemets, à se dire on a besoin d'un neuf, est-ce que ça doit être Thuram, est-ce que ça doit être Giroud? Et je trouve que finalement, il n'y a pas de bonne solution. Pour les raisons qu'on a évoquées hier, Giroud, pour moi, bien que je l'adore, ne peut pas être l'attaquant unique, universel et titulaire de cette équipe à 100% parce que physiquement, c'est plus assez
Giroud,
difficile.
Giroud, d'ailleurs, parenthèse, lui, pour le coup, est un attaquant technique.
Et qui a progressé surtout pendant, dans le cours de sa
vie. Il n'exagère pas Daniel quand même.
Il a beaucoup, mais
il a progressé.
Bah son rapport, tu préfères son rapport au ballon à lui ou Marcus Thuram et son rapport au ballon?
On n'est pas loin l'un de l'autre. Hein.
Non, non, là vous abusez. Là.
Non, mais enfin bon, on n'est pas là par rapport au profil que tu as cité tout à l'heure.
Non, mais évidemment.
Tu nous as charqué deux, trois joueurs. Et là,
de Bruyne égale Giroud dans un quart d'heure. Ça va être ça.
Non.
Donc, juste pour revenir sur cette problématique du neuf unique, je me suis dit, ben. Le meilleur moment de Giroud d'ailleurs et de l'équipe de France, ça a été quand Mbappé et Giroud étaient à deux devant, dans un 3-5-2 qui avait Griezmann derrière, qui était une forme de logique. Donc je repars pas du 3-5-2 pour dire il nous faut 5 défenseurs plutôt que 4. Je repars du 3-5-2 aussi par rapport à l'aspect offensif. Et avant d'y revenir, je voulais d'abord juste raconter cette histoire et revenir sur la chronologie du 3-5-2 avec Deschamps. C'est quand même assez marrant de voir que il n'en voulait absolument pas, culturellement c'est pas son truc. Il s'y est converti à la fois parce que, il le disait-il assez intelligemment, ses adversaires ils se voyaient pas défendre, tu sais, à 4 avec certaines attaques en face de lui, donc il avait en gros, il s'était adapté comme il le fait souvent aux adversaires, et il était devenu fan du 3-5-2 à tel point que j'ai retrouvé des déclats de mars 2022. Il sortait de 6 victoires consécutives avec ce système, les gens étaient séduits et lui s'engageait sur une Coupe du Monde où on allait aller vers ce système. Tout se renverse en 6 mois et en novembre 2022, Klos n'est pas dans la liste, il est sacrifié parce que justement Deschamps annonce qu'il revient à une défense à 4. Et ce qui est assez intéressant, et c'est pour ça que je dis non pas de ressortir le 3-5-2 comme système unique, mais je suis étonné de voir que Deschamps, qui est un pragmatique, qui lui, puisque par rapport aux discussions qu'on vient d'avoir, n'est pas un dogmatique, il n'a pas d'idée sur le foot, Didier Deschamps. Et n'ayant pas d'idée, il est...
Malheureusement, il en a une.
Ouais, enfin, en tout cas, il n'a pas d'idée précise de techniquement des schémas, oui. Des schémas et des circuits préférentiels qu'il veut avoir. Il a l'idée de s'adapter à l'adversaire et à sa propre composition de groupe. Et dans ce cadre-là, je dis, quitte à être pragmatique, tu n'as pas le droit, quand tu es un pragmatique, de dire, maintenant je repasse à 4 et c'est terminé, plus de 3-5-2. D'autant que tu as dans la liste maintenant effectivement un Klos, même si je ne pense pas que ce soit le meilleur défenseur du monde, qui est que tu peux faire jouer dans ce système-là. Tu as un Théo Hernandez qui, à mon avis, est une bonne pioche aussi en piston, et tu as Lucas Hernandez comme ça que tu récupères en défense centrale. Et je trouve que ce système, d'ailleurs, est équilibré aussi au milieu. Il te permet de mettre Griezmann, puisqu'on parlait de meneur de jeu technique, en véritable meneur de jeu derrière deux attaquants. Et si Thuram, pour finir là-dessus, comme l'a dit Johan Crochet hier, est venu à l'Inter et n'est pas allé ailleurs, c'est parce qu'il voulait jouer à deux devant. Donc si aujourd'hui tu te dis Thuram, c'est en neuf tout seul devant, c'est compliqué. Et d'ailleurs, Thuram lui-même doit le penser. Et Giroud, tout seul devant, c'est compliqué parce que Giroud, il a 37 ans et que dans 4 mois, il veut se retrouver aux États-Unis avec Hugo Lloris. Et ben, dans ce cas-là, tu dois avoir l'intelligence et Deschamps, là, cette intelligence, on le sait, cette adaptabilité de te dire, je n'ai pas le droit, en tout cas, de dire, le 3-5-2, c'est terminé. Maintenant, ce sera à 4. Et tant pis si on joue avec un seul attaquant et une seule pointe.
Daniel.
Moi, j'aimerais bien que tu aies raison. L'adaptation, c'est bien. Changer de système, tout ça. Je suis pas sûr que tous les joueurs de cette équipe puissent le faire. Le faire pour mettre dans de bonnes conditions Marcus Thuram, mais tu l'associerais avec qui? Donc, ça veut dire, je suis pas sûr que Mbappé.
Tu sais que les bonnes années de ce 3-5-2 dont je parlais avec Deschamps, c'est soit Mbappé, Benzema, donc, Griezmann.
Mais t'auras pas, tu
manques. Mais c'est sûr, il y a des victimes collatérales.
Oui, mais victimes collatérales, est-ce que c'est Marcus Thuram sur qui il faut compter?
Non, mais il faut pouvoir. Si
c'est pas lui, c'est qui?
Non, mais il faut avoir alors, ce système.
Aujourd'hui, je ne vais pas être convaincu par un avant-centre en bleu. Hein. Giroud continue d'être le meilleur. C'est dire si on n'est pas bien quand même. Hein. Kolo Muani, Deschamps, arrête pas d'en dire du bien dans une espèce de jeu pour lui rebooster sa confiance en disant il fait des trucs que vous ne voyez pas. Ben, y a aucun problème. Moi, je veux bien te croire. J'ai juste envie de voir au bout d'un moment. On a le droit de voir quand même. Je veux bien te croire. C'est comme le mec au poker. À un moment, il me dit « J'ai une meilleure main que toi. » Bah oui, à un moment, il va falloir me la montrer hein, si tu veux gagner le coup. Tu vois, c'est... Non, mais si on va au showdown. À un moment, tu vois, sinon, on va pas te croire. Donc, je sais pas, Flo, je sais pas. Ça va réorganiser le milieu de terrain. Ça veut dire que tu vas avoir deux mecs simplement dans le milieu avec donc deux excentrés. Tes deux excentrés, est-ce que tu les as vraiment pour jouer comme ça? C'est-à-dire qu'il faut miser à fond sur Klaus, qui n'a pas d'énormes références de très haut niveau. De l'autre côté, on va dire que tu l'as, d'accord.
Trois
mecs dans l'axe, tu vas les avoir, ok, très bien.
Je préfère cette adaptabilité
sur Pavard parce que ça reste encore un des meilleurs dans ce système-là.
Là, t'as une très bonne charnière à trois.
Et ton choix de deux milieux, tu vas faire quoi avec Griezmann alors?
Tchouaméni, mais là tu peux faire ce que tu veux après. Tchouaméni, Rabiot, Tchouaméni, Camavinga, t'es libre. Moi, je trouve que, si tu veux, je trouve que se priver de cette possibilité-là d'exploiter Thuram, qui fait une saison énorme, quand même, avec l'Inter.
Non, Thuram, il m'a profondément déçu en Ligue des Champions quand le niveau s'est élevé.
Thuram, avec Lautaro, tu vois, ça te montre que ce gars-là qui joue à deux devant, t'en priver et te dire, t'as pas été bon en neuf tout seul, c'est tant pis, c'est Giroud.
Je te dis pas que je l'enterre, il m'a déçu, il a besoin de regagner un peu. Et les gars qui ne savent jouer que dans un. Qui sont monoprofiles, est-ce que tu dois tout sacrifier pour eux? Est-ce que les autres vont être à l'aise aussi? Je sais pas. Donc tu te prives de Dembélé, de ses accélérations. Je sais pas. De toute façon, de la façon dont joue cette équipe, tu as toujours le sentiment que de toute façon, c'est l'état d'esprit, la détermination plus qu'autre chose et Mbappé en forme. Parce que si t'as pas Mbappé en forme, je vois pas comment je vois pas ce que tu fais avec cette équipe.
Tu sais que
si tu n'as pas. De toute façon, on l'a vu à la Coupe du Monde. On l'a vu à la Coupe du Monde. Et on est d'accord qu'il n'y a pas eu de compétition. Il n'y a pas eu une autre compétition depuis la Coupe du Monde. Il n'y a rien eu.
Non, il n'y a pas
eu. C'était novembre 2022.
Oui.
Enfin, qu'on le veuille ou non, l'équipe de France est allée loin grâce à Mbappé. C'est-à-dire, c'est lui qui faisait l'équipe. On est bien d'accord.
Contre l'Angleterre, il ne marque pas.
Angleterre, Pologne.
C'est Tchouaméni, Giroud.
C'est tout le temps lui. C'est qui a le jeu dans les mains, de toute façon. Il n'y a pas le jeu de l'équipe, il n'y a rien qui est fait. De toute façon, le jeu de l'équipe est fait pour.
Donc tu dis quoi défensif, Marcus Thuram ou Giroud, peu importe. Donc, il faut un homme, un point d'ancrage qui peut servir Mbappé pour marquer.
Je veux bien que son schéma. Pourquoi pas? Mais je n'ai pas l'impression que ça va être le problème, en fait, la clé.
C'est ce que j'aime bien chez Luis Enrique, c'est quand il parle d'imprévisibilité. Moi, je dis à Deschamps, tu ne peux pas te permettre, quand tu es un coach pragmatique, c'est pas une honte, c'est comme ça. Quand tu es un coach pragmatique et pas dogmatique, tu ne peux pas te permettre de dire, moi, mon système, c'est ça, et puis les joueurs vont s'adapter et je ferai rentrer, en gros, le truc de force dans la chaussure. Tu dois pouvoir te dire, à un moment donné, faire du Deschamps, justement. Il l'a souvent fait, il a souvent changé, mine de rien, Deschamps. Il dit tout le temps qu'il ne changera pas, mais il change. C'est pour ça que je me dis qu'il est capable aussi, c'est là où sa force, d'ailleurs, de commencer avec des joueurs et finalement d'arriver 3 mois après avec d'autres joueurs, de me dire, aujourd'hui, je suis repassé à 4, je peux entendre les 3-5-2 et d'y revenir.
Tu oublies un truc, c'est que Deschamps, de toute façon, c'est comme... son attitude, lui déjà il supportait pas, parce que de toute façon, quand il était joueur, on l'appelait le porteur d'eau. Il était toujours en dessous du bien qu'on pensait de Zidane. Platini, au début de sa carrière, avait eu des remarques que lui a toujours vécues comme très désobligeantes à son encontre, sur le fait justement que c'est le capitaine des Bleus, avec sa technique, machin. Et tout ça, il en a toujours souffert. Donc, le style que lui, il a eu, le style qu'il a donné à l'équipe de France, son regard sur les stars techniques de ce jeu, alors que lui ne l'était pas. Lui, il a toujours combattu. Sa vie n'a été qu'un combat. Je suis le plus fort, je suis un entraîneur extraordinaire, parce que c'est vrai qu'il a une carrière de fou. Donc, quand toi, tu demandes qu'il ressemble à des gars qui, sur le terrain, vont réfléchir, machin, lui, il est dans l'opposition à ça. Lui, il est dans... Hey, casse-toi la tête autant que tu veux, petit, là, avec tes réflexions et tout. J'en ai rien à foutre, moi. Détermination, état d'esprit, on va vous manger. On va vous manger. Bon, bah, écoute, ok. Bon, ok, il a eu à la Coupe du Monde le bol d'avoir un Mbappé à ce niveau-là. Bon, très bien, c'est avec ce style-là. De toute façon, il a des résultats. Il est. Tu peux rien dire contre lui. C'est un dieu en France.
On peut regretter sa philosophie, ses idées, moins ses résultats. Luc est avec nous, 32-16. Salut Luc.
Tous, bonsoir.
Bienvenue dans l'After avec Flo et Daniel.
Comme ça, tu gagnes du temps.
Salut Luc. Toi, tu as du mal à comprendre pourquoi il pourrait changer le système, Deschamps.
Bah, comme je disais au Standard, pour moi, c'est pas du tout le sujet. Alors, l'histoire de changer. Alors, surtout si on se base. Alors moi, il y a deux choses qui me choquent un peu avec cette proposition. C'est le fait de parler de changement de système après le match contre l'Allemagne, qui pour moi n'est pas du tout révélateur de l'état de forme et du niveau de l'équipe de France, même si on est à 3 mois de l'Euro. Et aussi par rapport à Marcus Thuram. Alors j'entends, il fait une bonne saison à l'Inter de Milan, mais je suis désolé, c'est pas non plus une saison digne d'un top attaquant européen. Qui nécessiterait
il va pas mettre un but, hein.
Voilà, c'est ça. Qui nécessiterait qu'on change le système pour lui.
Je suis d'accord avec toi. Bon.
Donc voilà, et ça fait plaisir. Et juste, j'aimerais juste dire un mot.
Donc juste ta solution, c'est quoi alors? Parce que si tu changes pas de système, tu mets Giroud et tu dis c'est Giroud notre attaquant, alors qu'il y a un an et demi, en gros, des gens voulaient l'envoyer à la retraite et on se disait qu'à 37 ans, ça allait être compliqué.
Bah alors moi j'ai envie de dire pourquoi changer une recette qui marche et qui a fonctionné. À partir du moment où on n'a pas ce joueur, en fait, qui va apporter plus que Giroud. Pourquoi on veut à tout prix changer Giroud? Alors oui, il commence à être un peu sur le déclin. Il ne fait pas une excellente saison avec le Milan AC.
Ah ouais, de toute façon, tu vas faire l'Euro, va faire l'Euro comme ça et puis c'est fini. Hein.
C'est ça. Et on le connaît, Giroud.
En
on
plus, sait que quand il faut être là, bien jouer avec un œuf comme ça, bon voilà.
Et par contre, j'avais juste un mot à dire. Par rapport au débat qui est survenu un peu avant, par rapport aux joueurs techniques qu'on avait en équipe de France, qu'on n'avait pas plutôt en équipe de France et qui manquait dans le jeu, dans le foot français. Moi, il y a un joueur qui à chaque fois m'a ébloui à chaque fois que je le voyais jouer, et pourtant je suis parisien, mais c'est TJ Savanier. Alors ok, aujourd'hui. Voilà, c'est même pas un débat.
Savanier, je l'ai cité tout à l'heure, mais le problème c'est que lui n'a jamais voulu.
Lui n'a pas voulu.
Il n'a pas voulu quoi?
Mais Savanier, il n'a jamais voulu réellement
faire le step. Il a voulu rester à Montpellier,
il était
bien.
Il n'a pas voulu faire le step du très haut niveau. Il voulait rester dans son confort, c'est son choix de vie, tout à fait respectable. Tout le monde le kiffe, t'es pas le seul. Hein. Bon là maintenant, il vieillit et tout. Oui. Mais il y a 3-4 ans sur le terrain, il faisait partie des joueurs justement qu'on voyait trop peu. Qui était le gars qui, au milieu de terrain, pouvait orienter, il ratait pas une passe, en plus, il tirait les coups francs, il avait ce rapport au ballon qui font kiffer ceux qui aiment le foot, quoi. Mais
aussi qu'on a pas cité, c'est Dimitri Payet, hein.
Si lui, il n'a pas voulu.
Michael Pagis.
Ouais, bah là, tu remontes, là. Non, Jérôme Leroy, allons-y.
Payet, c'est vrai, parce que lui, il avait ce rapport-là au ballon qui fait kiffer. Après, il avait un caractère qui était un peu compliqué et qui n'a jamais pu s'adapter. Mais il est quand même à l'Euro 2016.
Tout à fait. Luc, merci d'avoir fait le tour. Vas-y, fini. Je te laisse finir.
Non, j'allais dire, pour en revenir juste à l'équipe de France, moi, je pense que, encore une fois, on aura le droit encore à l'opération commando de Didier Deschamps.
Bah oui.
Et je pense qu'il sait remotiver et remobiliser tout le monde quand il faut. Il va nous pondre un truc bien solide, bien costaud, comme il sait le faire, et il partira à la guerre avec les joueurs qu'il estimera être de confiance.
Avec du bon ciment. Stage, là où toi, tu verras ou pas Mécano irrégulier et les défenseurs que tu as un peu pâteau, lui, en un mois de stage, il va te les requinquer, ça va être des monstres.
Merci Luc d'avoir fait le 32-16.
Merci à vous.
Toi. Tu reviens quand tu veux, bien sûr. Voilà pour l'équipe de France. Ah, vous l'avez compris, c'est le moment d'envoyer Coff au 7-32-16 pour vous inscrire et avoir une chance de remporter la cagnotte et ouvrir le coffre, hein, jusqu'à 50 000 euros à gagner sur RMC cette semaine. Oui, 50 000 euros, c'est tombé déjà, hein, le mois dernier. On remet en jeu, on rouvre à nouveau le coffre RMC. C'est très simple, vous avez 5 minutes dès à présent pour envoyer coffre au 7-32-16, coffre au 7-32-16 et avoir une chance de remporter les 50 000 euros. Pause dans un instant, Marseille PSG 20h45 dimanche soir, les infos marseillaises. Est-ce qu'il faut craindre le pire pour l'OM? Reste avec nous, avec Daniel Riolo, avec Flo Gautreau, c'est l'After sur RMC. Il est 23h17, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Nicolas Jamain.
Avec Flo Gautreau, avec Daniel Riolo, c'est l'After. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à minuit. Je vous rappelle que l'équipe de France a été rejointe de partout. L'équipe de France U23 de Thierry Henry par les USA. Dimanche soir, Marseille-PSG, 20h45, on va évoquer ce match un peu chaque soir sur RMC, dans la génération After et dans l'After.
Alors, il va être
là, il y a les infos. Alors justement, écoutons-le. Kylian Mbappé est en conférence de presse tout à l'heure. Demain soir, il jouera au Stade Vélodrome à Marseille. Et ouais,
il va rester à Marseille 4 jours ou pas? Ou il va revenir à Paris quand même?
Je pense qu'il va revenir. Écoutez-le, il s'attend à être sifflé.
Des tours à Madrid.
Kylian Mbappé, tout à l'heure en conférence de presse avec l'équipe de France.
Bah, la plupart de ma carrière, je suis venu ici en tant que rival. Donc c'est sûr que j'ai pas eu la possibilité de bien admirer le stade. Après maintenant, comme je suis en tant que joueur de l'équipe de France, c'est sûr que ça va être cool de jouer ici. Il y a une bonne ambiance, c'est un grand stade. Voilà, un des stades en France où il y a le plus d'ambiance. Je pense que ça fait partie des 2-3 stades en France qui sont le plus chaud. Donc ça va être cool de jouer ici. Mais même quand je viens en tant que Parisien, c'est cool. Même si on est de l'autre côté, il y a une bonne ambiance. Ça nous donne toujours envie de faire un bon match.
Voilà, il sait qu'il sera sifflé et il accepte.
Normal, non?
Oui, oui. Mais ça vous choque ou pas, ça, d'ailleurs?
Non, pas du tout.
Qu'un joueur français soit sifflé à cause de rivalité de club?
Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu Mbappé se faire ovationner dans beaucoup de stades. Alors, pas au Parc.
Là c'est Marseille.
Pas au...
Mais est-ce que tu vas le déplorer demain soir s'il se fait siffler?
Moi, non.
Ou vous allez dire, ben non, les gars, c'est comme ça, c'est la réalité, il faut la respecter, c'est culturel.
Je déplore pas, mais j'ai trouvé bien une époque quand... il se trouve que j'étais à Rennes pour un Rennes PSG, il est entré en jeu, il y a une ovation parce que suite à la Coupe du Monde où il y avait où tous les gens se sont levés, il y avait aussi une rivalité.
Juste après la Coupe du Monde, il y avait une sorte de respect partout dans les stades.
Mais c'était bien aussi, c'était bien aussi, tu vois.
Dans les deux cas, en fait, moi je trouve ça bon. Écoute, rien à redire, les gens vont au stade, ils veulent. Non, ce qui serait drôle, c'est si tu avais genre un match extrêmement important comme il y avait eu à l'Euro 2016, la demi-finale, quand Griezmann met le doublé. Imagine un match comme ça où t'es à la rue, machin, et c'est Mbappé qui marque le but et tout. J'aimerais voir si ceux qui ont sifflé au début du match continueraient alors qu'il a sauvé l'équipe de France.
T'as ça, et puis t'en as des histoires comme ça, mais à l'inverse, avait Papin, rappelle-toi, quand on a fait le remake de France-Bulgarie, qui disait qu'il voulait quitter le parc.
Il avait du mal au Parc des Princes.
Et qu'il voulait sortir et qu'il ne voulait pas célébrer avec le public du parc parce qu'il avait. Il en a mis des buts, puis des sacrés, le retourné contre l'Espagne.
Il en a mis une tonne, des très beaux au Parc des Princes.
Et il y avait quand même une relation compliquée aussi qu'il n'avait pas appréciée.
Ça en fera des Parisiens demain.
Juste à ce moment-là, parce qu'il y avait la rivalité, parce qu'il y avait Ginola, il y avait cette histoire-là dont tu parles. Maintenant, le Parc des Princes de cette époque-là, quand l'équipe de France y jouait, peu importe, on était, à part vraiment ponctuellement cet épisode-là, mais dans les années qui ont précédé, le Parc des Princes était très neutre sur cet aspect. D'abord, la rivalité PSG-OM n'était pas du tout comme maintenant, elle n'avait rien à voir, elle était naissante.
Bon, on l'a compris, ce n'était pas le bon son de Mbappé juste avant, on l'écoute tout de suite sur les sifflets.
J'aurais pas la prétention de demander ça. Je vais juste me concentrer pour jouer. Peu importe l'accueil qui me sera réservé, je vais donner le meilleur de moi-même, comme j'ai dit dans la question d'avant, pour amener une réaction. Pour être honnête, je comprendrais si je suis sifflé. Il y a un classico dimanche, je suis joueur du PSG. Donc si je suis sifflé, c'est la vie. Je prendrai pas ça personnellement et ça changera pas ma manière de jouer. Mais si je suis pas sifflé, je serai agréablement surpris. Comme quoi, des fois dans la vie, on peut avoir des bonnes surprises.
C'est une bonne réaction.
Mais oui, bien sûr que c'est de toute façon une
que des bonnes réactions.
Très fort.
Bah, ça, on peut quand même, tiens, quand même reconnaître voilà, oui, mais... que ce gars-là, quand il parle, c'est quand même.
Mais moi, je suis d'accord avec toi.
C'est un mec à part.
Tout à l'heure, on avait le débat et ses réponses agacent certains ici à RMC. Parce que
ça agace. Genre, le mec, il est quand même.
Parce qu'il voit toujours une intention derrière, une envie de se mettre en avant, de marquer sa différence avec les autres.
Le problème, c'est qu'on a un mec.
Il est différent.
Oui, il est différent.
T'as un mec qui parle, qui se cache pas, qui répond à toutes les questions de façon plutôt intelligente tout le temps.
Dans un bon français.
Voilà, c'est ça, quoi. C'est tout.
En fait, c'est
incroyable les rabat-joies qu'il y a dans ce pays.
Ce qui est dingue dans cette histoire avec Mbappé depuis le départ, c'est que on a un mec intelligent. Après, évidemment, que parfois il y a de la com, parfois il y a effectivement des idées derrière. Mais on a souvent taillé les fouteux quand on avait des réponses débiles au micro.
Bateau.
Et maintenant qu'on a un mec qui est intelligent et qui répond intelligemment, même s'il y a parfois effectivement des biais de communication, on trouve le moyen de lui tomber dessus.
Mais là, il y a quel biais à dire. Justement, montre qu'il est intelligent. Il sait très bien que PSGOM, il s'attend à se faire siffler. Il dit, bon, ben oui, qu'est-ce que je fasse? Ben oui, je le vis bien. Et quoi, on préférait... Ouais, ce serait bien que, comme c'est l'équipe de France,
non, mais tu sais quoi,
je ne sois pas sifflé.
Non, mais oui, mais tu vois, il y a une réponse qui a fait réagir ici. Parfois. Moi, je trouve qu'elle est très sympa, sa réponse. Quand on lui pose la question, vous rentrez dans la période la plus excitante de la saison. Il répond, le petit enfant qui veille en moi est super excité d'être en quart de finale de Ligue des Champions, en demi-finale de Coupe de France, bien parti pour être champion et qui va préparer l'Euro. Voilà.
Oui, là, on a l'impression qu'il récite un peu.
Oui, c'est ça.
Là, j'aurais trouvé ça moins,
mais
c'est moins naturel que quand.
Oui.
Que la plupart du temps,
phrases
il est très naturel.
Bon.
Enfin, il est naturel.
Il aime bien s'écouter parler aussi, parce qu'il parle bien.
Non,
c'est vrai.
Il est naturel et il a aussi des biais de communication qui sont, et des éléments de langage. Quand il répond à la fin du match de la Real Sociedad et qu'il dit je n'ai pas de problème avec le coach, j'ai bien d'autres problèmes, ça, c'est un truc qu'il avait gambergé et qui avait été décidé, tu vois, avant. Donc, oui, il y a évidemment de la prépa et des éléments de langage, mais. Il a aussi des moments de spontanéité et une facilité incroyable à gérer ces moments-là.
Alors dimanche soir, il sera donc au Vélodrome avec le PSG. À l'OM, on misait, je le disais en intro, sur la trêve internationale pour régénérer le groupe, vider l'infirmerie, c'est raté. Écoutez bien, Pape Gueye, Ismaïl Assar, entré blessé de sélection avec le Sénégal.
Pour l'instant, là, il n'y a pas des grosses pertes.
Petite lésion mollet pour Gueye, mais tu n'as pas un effectif très profond non plus.
Ouais.
Lésion mollet pour Gueye, plus problématique pour Sarr, lésion plus profonde de la cuisse gauche, absent au moins 10 jours. Ulysses Garcia, parti blessé, revient blessé. Tu vas me dire, c'est moins un problème, mais il peut être une solution.
J'attends les grosses pertes.
Bamo Meïté, blessé à l'entraînement, en torse de la cheville. Amir Morillo, qui poursuit sa convalescence, il ne sera pas dispo dimanche.
Ouais, encore.
Valentin Rogier, j'ajoute, dont la reprise est retardée à tel point. Donc on se demande s'il jouera cette saison.
Moi, je pense
possible
qu'il aura beaucoup de mal à jouer cette saison. Et rappelez-vous, au début, quand il se blesse, on pense que ça va durer 2 mois.
Tout à fait.
C'est terrible de s'être privé toute une année de ce joueur. Il est très important pour l'OM.
J'ajoute, Jean Onana a un touché avant la trêve. Il ne devrait pas être remis d'ici dimanche. Présence très incertaine de Samuel Gigue.
Il est à l'OM, lui ?
Bien sûr.
Mais non, mais on ne l'a pas vu. Ce n'est pas des joueurs importants, tout ça.
Samuel Gigue, présence très incertaine, blessé depuis 3 semaines. Ça veut dire que tu vas recevoir le PSG avec un groupe extrêmement réduit. Tu n'as pas tant de solutions ça,
en tout cas,
défensivement.
Tu n'as peut-être pas de banc, mais toujours est-il que tu as malgré tout de quoi faire le vrai 11. Le vrai 11, il n'est pas impacté pour le coup. Le 11, il n'est pas impacté.
Le 11 récent,
à part Samuel Gigot qui est absent depuis 3 semaines. Le
Non, parce que sur un des très bons matchs qu'ils ont fait, attends, récemment, où il n'est pas
Mbemba
là.
Mbemba Belhardi.
Non, mais t'as raison, Gigot n'était pas là. Et
t'as Mbemba Belhardi.
Celui qui était là, paradoxalement, c'est Meïté qui était presque plus là.
Oui, bah, ouais, Meïté qui commençait à avoir plus de temps de jeu.
Et là, ils vont jouer Klos à droite, donc de l'autre côté. Merde, l'arrière gauche vient d'arriver, là, Merlin. La charnière, on vient de la donner. Vertu va être disponible.
Oui.
Ok. Devant
Young Ndiaye.
Attends, Ndiaye et Aubameyang, voilà.
Ils vont solidifier probablement un milieu à 4. Bon.
Pour revenir
à
évidemment. Donc il a un 11.
Quand même, par rapport à l'état de fatigue et de ce qu'on a pu voir avant la trêve, notamment à Rennes, c'est pas anodin. Certes, t'as raison, c'est beaucoup de joueurs, on va dire, de banc. Mais malgré tout, cette équipe-là qui tire la langue à ce point, et les dirigeants et entraîneurs qui ne cessent de communiquer depuis 10 jours avant la trêve et avant le match de Rennes pour dire les pauvres petits, on va essayer de les maintenir en gros encore une semaine à tenir pour faire ce dernier match, puis après, au lit, on se repose. Et on... tu te dis, attends, c'est l'OM, t'arrives pas à gérer ce nombre de matchs, t'as pas de banc, comme tu le dis, donc effectivement, même s'ils sont des blessés de seconde zone, c'est quand même le banc de touche qui a impacté. Tu peux pas faire ta saison, sachant qu'ils sont toujours qualifiés en Coupe d'Europe, avec cette impression que tu as 14, 13, 12 joueurs, c'est honnêtement, ça. Cette équipe-là qui tire la langue dès le mois de mars.
Si tu envisages la fin de saison, c'est
terrible.
Un vrai problème.
Ah bah oui, moi je trouve et ça surtout, terrible. Je suis très inquiet pour
ce
ça.
Ce qui est pire qu'un problème, c'est que non seulement ce que tu dis est vrai, mais tu te dis que si tu as une faiblesse sur le banc, une faiblesse d'effectif, c'est quand tu vois la liste des mecs, tu te dis waouh. T'as pas des cadors quand même dedans. Hein.
Ah non,
t'as quand même pas des monstres.
D'ailleurs, Gassé, et c'est la quadrature du cercle pour lui, parce que si il a fatigué, on va dire, son host type, c'est parce qu'il n'avait pas beaucoup de solutions déjà sur le banc de touche. Après, je trouve quand même que Gassé, dans son approche du match, on a vu un débat avec Daniel là-dessus, Villarreal, et dans sa com avant Rennes, franchement, il a envoyé un peu ses joueurs à l'abattoir et à la défaite. C'est-à-dire qu'en gros, bon, on est crevé, on n'y arrive plus. On a ce dernier match, puis après, on va se reposer parce que vraiment, on n'en peut plus. Moi, franchement, j'ai été très, très étonné par tout ça. Je pense que si tu es supporter marseillais, tu dois quand même te demander comment l'un des plus gros clubs français ne peut pas jouer tous les trois jours et finit sur les rotules avec un match quasi perdu d'avance parce que les mecs sont pris.
C'est aussi la question du recrutement de Pablo Longoria cet été.
Ils se sont reposés, t'as beaucoup qui n'ont pas joué avec leur équipe nationale.
Mais normalement, oui, sauf que c'est les. Il n'empêche que tu as en gros un noyau ultra réduit.
Tu dois avoir 13 joueurs compétitifs. 13,
14 joueurs, voilà, c'est quand même un peu compliqué.
Avant un mois d'avril, compliqué. Regarde, hein.
Il en a profité pour se reposer, pour aller chez Disney le week-end dernier.
Ah bon? Ah, j'ai pas vu.
Il a dû faire un tour à Laval.
Il se cache. Bah, en photo, tu peux le voir sur le net. Ou... Comment tu sais, toi, tu y étais?
Parce que moi, je sais tout.
Oui, c'est ça.
Il revient souvent voir sa famille Disney. À Laval.
C'est vrai?
Ouais.
Très bien.
Week-end dernier, était chargé en people chez Mickey.
Il y avait un événement?
Je ne crois pas. Mais
tu étais invité, non?
J'ai le droit d'y aller. Ah non, j'ai dû. Non.
Bon, allez, pause, on va dans un instant. On va évoquer notamment l'affaire Saïd Chaban, hein, dont le procès a débuté aujourd'hui au tribunal correctionnel de Bobigny. Quelques infos aussi à vous donner. Tiens, on va parler de Julien Stéphane aussi, avec Flo, avec Daniel. Et avec vous au 32-16. Restez avec nous, c'est l'After RMC 23h30.
RMC, 22h, minuit, l'After Foot.
Nicolas Jamin.
L'After Foot avec Daniel Riolo, avec Florent Gautron, ensemble jusqu'à minuit. Merci d'être avec nous sur RMC à la radio et sur la chaîne YouTube de l'After également. 141 000 abonnés désormais, le compteur monte. Et dans le chat, n'hésitez pas à également réagir. Tiens, une info, les gars, que je vais vous donner. C'est l'info Ligue 1 du jour. Julien Stéphan a prolongé à Rennes jusqu'en 2026.
Oui, enfin, Flo le savait depuis 2 mois.
Non, il ne savait pas, Flo.
Flo
il le présentait, mais il ne le savait
décembre,
pas.
Que non seulement Julien Stéphan allait revenir, mais qu'en plus il serait prolongé.
Tout à fait, mais c'est l'officialisation, bon c'est bien aujourd'hui. Et conférence de presse, on est quel jour demain?
Demain mercredi.
Bon, voilà, le communiqué, René, le voici. Arrivé sur le banc rouge et noir en novembre, Julien Stéphan et son staff sont parvenus à redresser la barre avec brio, en remportant 14 matchs sur 22, seulement 5 défaites.
Je ne sais pas que c'était son adjoint, Brio.
Denis Brio?
Il y a une question qui se pose quand même, hein, sur la prolongation de Stéphan, mais c'est pas l'objet de...
Ah si, vas-y.
Non, mais la question qui agite le microcosme rennais...
Ah bon, il y a un microcosme à Rennes?
Ah oui, il y a un microcosme, je te confirme. Il y a un microcosme.
Ah, il y a partout des microcosmes. Il y a un microcosme et des punks à chiens.
Et des galettes saucisses.
Est-ce qu'il y a un landerneau aussi? Tu sais, c'est une expression.
Oui, il y a
un landerneau. Le landerneau,
il est très longtemps qu'on l'utilise plus, d'ailleurs.
Il est pas loin,
le médiatique.
Landerneau, il est pas loin, c'est dans le Finistère.
Le landerneau n'était pas.
Ça existe vraiment?
Je crois, en plus.
Le landerneau n'était pas que médiatique.
Oui. Landerneau, c'est pas une ville dans le Finistère?
Pas sûr.
Non, je confonds peut-être avec.
Ah, si, apparemment, oui. C'est une ville dans le Finistère. Très jolie ville, me dit Jérôme Thomas.
Ben alors, tu vois.
Très jolie ville. Que dis-tu dans le landerneau, René?
Les références de Jérôme Thomas en matière de géographie.
Ah bon, c'est Marbella, la ville préférée de Jérôme Thomas.
Ah bon.
C'est dire.
Pour son golf, bon prix.
C'est Marbella.
Donc tu voulais dire.
Non, concernant juste le débat, c'est, les gens se disent ok, c'est logique, on s'attendait à ce qu'il soit prolongé, mais tout le monde a en tête le fait qu'il réussit souvent ses débuts d'aventure et qu'il a du mal à durer. Donc le prolonger aussi tôt, entre guillemets, être aussi certain que... on doit le prolonger, c'est un peu comme les sélectionneurs de l'équipe de France qui ont prolongé avant les compètes. Ça a, voilà, il y a un petit débat là-dessus qu'on pourra avoir.
Et Flo Maurice, alors là, toi qui as introduit au club, finalement, il va pas aller à la Roma? Il va peut-être rester. Parce qu'il y a eu de vraies discussions, hein, c'était sérieux, mais là, il paraît que c'est
en tout cas, il est parti pour rester.
Ça, c'est l'expression pas du tout engageante. Quoi. Le mauvais titre de presse écrite.
Le mauvais titre. Mon Dieu.
Plus Maurice de points, parti pour rester.
Le Landerneau.
Le Landerneau, je vous ai séché là quand même. Hein.
Ouais.
Il y a aussi milieu autorisé.
Je préfère
Landerno, Microcosme.
C'est ça qu'il n'a pas confondu avec Concarno.
Non, quand même.
Waouh. Les tonniers.
Alors, j'accueille Nicolas Pelletier dans l'after. Ah. Bonsoir, Nico.
Salut à tous.
Salut. Nico l'homme est avec dossiers, nous. L'homme des dossiers épineux.
Ah oui, c'est plus
qui lui évolue dans le Landerno juridique.
c'est monsieur Police-Justice.
Police-Justice d'RMC Sport. Et même de BFM aussi, puisque vous avez pu le voir ce soir sur BFM.
Police-Justice.
Nico, tu étais au tribunal correctionnel de Bobigny aujourd'hui, où s'est ouvert le procès d'une affaire qui raconte les dérives du monde du foot sur le fond de commissions, d'intermédiaires, agents, thèmes qu'on évoque régulièrement dans l'after. On parle là, dans ce cadre-là, du propriétaire du SCO d'Angers, Saïd Chaban, qui est poursuivi pour blanchiment en bande organisée et exercice illégal de la profession d'agent sportif en compagnie de quatre autres prévenus, dont trois faux agents. Exactement. Intermédiaires. Je rappelle que la Fédération française de football, la LFP et l'Union des agents sportifs français se sont portés partie civile dans cette affaire. En gros, pour schématiser, expliquer à ceux qui ne connaissent pas l'affaire, Saïd Chaban aurait travaillé directement. Je ne parle pas le conditionnel, hein. Faut rester prudent. Il aurait travaillé directement ou indirectement avec ses intermédiaires, pas autorisés à le faire, et qui s'en seraient mis plein les poches, en gros.
Et eux seraient passés par un intermédiaire qui avait la licence FFF.
Une couverture avec un vrai agent licencié fédération.
Exactement. En gros, Nico, il faut... je ne sais pas par où commencer dans mes questions, avant que tu nous décrives un petit peu.
Il n'y a pas encore répondu, vas-y.
La situation, c'est quoi ? Il faudrait imaginer une grande table avec tout le monde qui doit croquer un bout de gâteau pour qu'une affaire se fasse.
Mais t'as trois mecs qui ne sont pas invités.
Et qui représentent beaucoup de situations dans le football français et international. Il y a France particulièrement parce qu'il y a la licence.
C'est pour ça qu'on peut dire que cette affaire Chaban, en fait, elle est
représentative de beaucoup de transactions qui se déroulent dans le...
C'est pour ça qu'elle est intéressante d'ailleurs.
Elle est très intéressante.
C'est juste Angers.
Non, et c'est
pas... s'en fout quasiment d'Angers. Dans
et il faut quand même raconter deux, trois éléments de cette affaire-là.
Exactement, mais c'est ce qui est très intéressant, c'est que ça concerne beaucoup de clubs et beaucoup de clubs, je pense, et beaucoup de dirigeants regardent ce procès parce que la façon de traiter, quand on peut lire le dossier sans se farcir les 1700 pages du dossier, mais quand on peut lire un peu le dossier, on comprend que beaucoup de personnes, quand on est dans le milieu du foot, on le voit, on en parle tout le temps, beaucoup de personnes utilisent ces méthodes, mais là, ils ont découvert, via le filon d'écoute dans un autre dossier, les méthodes du foot français, en fait. Et, ces méthodes, pratiquement tous les dirigeants peuvent les utiliser ou les ont utilisées par le passé, c'est-à-dire passer par un intermédiaire, un proche qui n'a pas la licence, et puis au final, c'est l'intermédiaire qui a la licence qui va faire signer le contrat. Donc c'est représentatif, et Daniel a raison, de beaucoup de situations dans le football.
Et dans ce cas précis du SCO d'Angers, on a là trois hommes qui sont quasiment invités quotidiennement dans les structures du club,
oui.
Forts de leur pouvoir, de leur réseau, sans avoir le droit de le faire, sans avoir le droit d'exercer leur activité d'agent, puisqu'ils ne sont pas agents, qui sont quasiment rendus indispensables. C'est aussi parce que M. Saïd Chaban les aurait autorisés à rentrer, parce qu'il ne voulait pas bosser avec des agents, lui, il avait peur des agents.
Exactement, et il s'est expliqué très longuement. Il avait fait 36 heures de garde à vue l'année dernière dans ce dossier. Il y avait eu des perquisitions au SCO d'Angers, il y avait eu aussi des perquisitions à la Saint-Étienne, ouais. Mais au final, le service des courses et jeux qui gère ce dossier n'avait
qui
retenu...
Qui est un nouveau service, qui est dédié...
Et qui est un service qui connaît parfaitement ce système et le système autour du foot
et qui a la volonté, alors je ne sais pas s'il y a un vrai espoir derrière...
Exactement, parce que c'est l'info qu'on a sorti...
De faire le ménage,
exactement, c'est l'info qu'on a sorti il y a quelques semaines sur le site. C'est que le ministère de l'Intérieur s'intéresse au système des transferts et de toute la bulle qu'il y a autour...
Même, non, ça fait des années qu'on en parle...
Ben, oui, aussi par exemple des avocats mandataires sportifs qui ont une particularité récemment, ouais. dans les transferts de foot, et donc le ministère a lancé un groupe de travail, c'est l'info qu'on avait sorti avec Daniel il y a quelques semaines, sur ce dossier des transferts dans le milieu du foot.
Nico, il faut peut-être expliquer un petit peu, parce que ce qui se passe à Angers, tu l'as dit, ça se voit dans d'autres clubs, mais là particulièrement, c'est quoi le truc? Pendant des années, je me souviens que Flo s'intéressait beaucoup à ce club d'Angers, là. Il a toujours été très ouest de la France.
Pendant des années, il y avait
Pierre Piqueux. Alors, le club marchait, il y avait Saïd Chaban, c'était les belles années d'Angers, et il y avait un directeur sportif qui s'appelait Piqueux.
Exactement.
Piqueux a fait des très bonnes choses, il a réussi à amener des joueurs et tout, et il était intéressé.
C'était dans
par
contrat.
Oui. Donc c'était légal à la vente des joueurs. Donc
il prenait un pourcentage sur la vente des joueurs qui réalisaient.
C'était dans son contrat.
Ouais, c'était légal. Rigolant, il croquait, mais il croquait, c'était dans le contrat. Et au bout d'un moment, visiblement, Chaban en avait un petit peu marre de voir que Piqueux non seulement prenait un peu pour lui tous les compliments autour du club, mais qu'il se gavait toujours par le biais d'un contrat, donc il se gavait légalement sur cette histoire. Résultat, est-ce qu'on peut dire qu'il a voulu faire un petit peu pareil. Ils disent, bah, regarde, moi aussi, si je prends des copains à moi, on va recruter des joueurs, on va faire venir et tout. Et ils ont commencé à faire leur tambouille. Lui, avec des amis à lui, qui ont présenté d'autres amis à lui. Et ça a rajouté des intermédiaires. Et ça a donné cette situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui se termine au tribunal.
Exactement. Et après, ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que l'histoire arrive par des écoutes sur un dossier de BTP, de mauvaise gestion d'une entreprise de BTP.
D'un des prévenus.
Et là,
de l'extorsion sur un marché
BTP.
Et là, BTP.
Les policiers qui sont sur les écoutes, ils se disent, ils connaissent un petit peu le foot et ils se disent, mais là, on est peut-être dans une situation un peu de.
Parce que sur les écoutes, ils attendent que le gars en question parle beaucoup de foot, il parle jusqu'au danger, il parle de commission. Ils font
les policiers qui.
Une affaire, et ils amènent sur une autre affaire.
Exactement. Et donc, ils vont signaler.
C'est par hasard presque qu'on se comprend à bras le corps ce dossier.
Ouais, mais donc, et donc, ils vont signaler ça au service des courses et des jeux qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, eux, ils vont ouvrir une enquête derrière via le parquet de Bobigny. Et c'est comme ça que l'affaire se arrive, en fait.
Ouais, c'est ça,
c'est plus spectaculaire, parce que des situations de transfert avec une personne qui a fait signer un joueur et qui passe par un agent FFF qui est juste une tête de gondole de cette personne qu'il représente, ben, il y en a plein.
Sauf que là, au bout d'un moment, ce qu'on se dit, c'est que Piqueux, il croquait parce que c'était dans le contrat, mais son travail, c'était pour le bien du club.
Oui.
Donc moi, au final,
et le club allait bien.
Au final, qu'il croque sur le transfert, il fait son métier.
Daniel, c'est comme un banquier qui fait signer un contrat à un client.
Mais si le club,
un bémol quand même, c'est légal parce que c'est dans le contrat, d'accord. Mais par rapport à Longoria, tout ce qu'on dit de l'OM, à partir du moment où ton job, c'est de faire que ton club gagne, il réussisse. C'est pas forcément de vendre des joueurs, tu vois, qui peuvent être amenés à rester. Tu veux avoir une stratégie sportive.
Il y a une limite dans ce système. Et tant que ça marche, on oublie la limite.
La stratégie sportive, si on te dit, tiens, tel joueur, non, il faut le garder parce que j'en ai besoin pour les prochaines. Ah oui, mais moi, il faut que je le vende parce que je prends 20% à chaque fois. Tu vois, il y a une limite quand même.
C'est vrai.
Ok, c'est légal, c'est marqué, très bien. Mais nous, sportivement, et dans l'organisation et la gestion d'un club.
Il a raison, Flo, c'est une limite. Mais alors, dans ce cas-là, alors finalement, Chaban, au bout d'un moment, a sa coquinée avec ce qu'on appelle la bande organisée.
Créer des milliers.
Il a pas bossé pour le bien de son club. Il a plombé le club. Il a plombé son club.
Et des milliers de transactions bancaires où les policiers ont dû passer des heures à retracer les flux financiers. Il y en a des milliers dans le dossier où tu dois voir que l'entreprise A a payé à l'entreprise B, mais l'entreprise B a reversé à l'entreprise C qui n'était pas autorisée à reverser à cette entreprise C. Et donc tu arrives à cette situation où tu as 1740 pages de procédure sur un. Bon. Normalement, un petit
et le
dossier,
joueur qui part d'Angers pour atterrir à Nice,
Mohamed Ali Chou.
C'était que Galtier ne voulait pas et que
ce système-là
le
fait que
j'ai oublié son nom de l'époque Fournier.
Julien Fournier.
Donc on arrive quand même.
Il arrive le 1er janvier à Angers, 6 mois après il part à Nice.
Exactement.
Voilà. Et Galtier voit arriver un joueur qu'il n'a jamais demandé. Il ne sait pas d'où le gars arrive.
C'est ça.
Donc ce système-là produit ce genre de choses. Parce que des directeurs sportifs vont s'entendre entre eux jusqu'à arriver à des situations de croquage. Oui. Et tu te retrouves avec un mec dans l'effectif. Donc lui, c'est un pion, le joueur.
Le joueur est totalement croque.
Mais tu sais, en dehors du croquage, enfin oui, c'est du croquage aussi, tu dis parfois, mais ce joueur-là, c'est dingue. Techniquement, puisque tu parlais de ça, il est quand même en dessous. Et on me dit, ah ouais, mais attends, comme lui, il est de telle écurie, on a recruté un tel qui est titulaire là. Et en fait, il y a lui et lui qui sont arrivés dans la transaction. Et donc, tu traînes des mecs et tu as des coachs qui
ne peuvent rien dire.
Et qui se disent, en gros, qu'est-ce qu'il fait là, quoi, tu vois. Mais voilà.
Et souvent, les clubs se retrouvent obligés de traiter aussi avec les personnes qui n'ont pas de licence. Et donc, ça aussi, c'est particulier parce que le club, si tu as envie du joueur.
Si tu le veux,
il faut que lui
aussi prenne.
Ben, le joueur, il va dire oui, mais tu traites avec cette personne et pas avec l'autre personne.
Mais tu penses qu'on peut vraiment faire le ménage, Nico, comme on le sait, comment ça fonctionne et tout? Parce que cette commission, voilà, le commissaire, il est extraordinaire. Ils sont à fond là-dessus. Puis c'est des gars qui viennent du jeu. Donc ils en ont vu d'autres à régler les histoires des casinos, tout ça.
C'est difficile parce qu'au final, tu pourras toujours donner, je sais pas, je te dis une bêtise, mais tu pourras toujours donner une prime au joueur. Et il la reversera à la personne qui l'a fait signer. Donc
qu'est-ce qu'on attend de ce procès finalement? Parce que tout le monde l'attend. Hein.
Mais il y a beaucoup de dirigeants.
Il y a beaucoup de dirigeants du foot français.
Alors il va peut-être être renvoyé demain matin, mais il y a beaucoup de dirigeants du foot français.
Parce que s'il y a des condamnations,
bah tu
là attention parce qu'il y a beaucoup de présidents qui vont se dire oula attention, on va peut-être, on va faire attention avec qui on parle du coup.
Exactement.
Après ça voudra dire elle sera cette commission avec avec le commissaire là va être vraiment prise au sérieux.
Il regarde beaucoup les agences en licence et beaucoup les avocats mandataires sportifs qui sont aussi.
Après, la difficulté est toujours la même, c'est de retrouver la trace des virements bancaires.
Exactement.
Parfois, c'est sous le manteau, parfois, c'est du cash.
En tout cas, ils ont fait une enquête qui, d'après le procureur, est complète. D'après les.
T'as un prono sur l'issue ?
Non, je me fais pas.
Non, mais condamné ou ils vont sortir ?
Non, je fais un match de foot, Daniel.
Compliqué.
Toi, t'en as un ?
Mais non, on n'a pas, on peut pas jouer à ça avec la justice, faire un prono, les amis.
Enfin, bon, tu peux te demander.
Voilà pour. Ouais, mais non, mais c'est un peu plus sérieux que ça.
Affaire, hein. Tu peux quand même essayer de savoir si les gars vont être condamnés.
Déjà, laisse le procès se faire. Il peut être envoyé demain, notamment. Ça peut durer des semaines. On verra ça.
Et ceux qui aiment ça, c'est au tribunal de Bobigny et c'est ouvert à tout le monde.
Je rappelle quand on parle de somme,
tout le monde a le droit d'aller voir.
Et ils entendent toutes les histoires. Vous avez fait ce transfert, machin.
Je rappelle qu'on parle pas de 300 000, 2 000 euros.
On parle de millions d'euros, les amis. On parle de millions d'euros.
On parle pas de 20 000 euros hein, sous le manteau. Hein.
Ah, et de 560 000 euros d'avoir
traité les affaires de
Clodo
ou quoi là ?
Flo.
Non, juste sur le fait que, ok, c'est intéressant pour l'existence de ces agents sans licence dans le monde du foot et ça, à mon avis, continuera à exister parce que, effectivement, il y a plein de moyens de contourner. Il y a aussi plein de dirigeants qui ont accepté un peu de travailler comme ça. C'est-à-dire que même des gens très honnêtes, mais qui se disent, mais si tu travailles pas comme ça aujourd'hui et en ce moment, bah, tu rates plein de trucs.
Tu rates des joueurs.
En revanche, ce qui est intéressant et ce qui serait intéressant dans ce dossier, est-ce qu'il est déjà dans les écoutes et tout ce que tu as raconté sur le site et ce qu'on peut lire, c'est que il y a un lien aussi souvent avec la petite ou la grande délinquance. Et là, enfin pas souvent. En tout cas, il arrive.
Bah, t'as un des prévenus qui est déjà en prison actuellement.
Sous écrou, ouais. Donc ça, pour le coup,
un des prévenus est arrivé sous écrou.
Qui était l'intermédiaire qui n'est pas
agent. Et ce lien-là, quand même, il est vrai que le foot, pour le coup, là, c'est pas juste de la petite histoire et d'une série Netflix. Hein. C'est vrai que ça attire quand même aussi beaucoup ce genre de personnalité. Et là, c'est l'occasion de le révéler et d'en parler.
C'est parce que les sommes énormes sont en jeu. Nico, merci.
Merci à vous.
On va sur avec toi.
Plus éléments sur le site.
On va voir si c'est renvoyé ou pas.
Dommage. Les procès sont jamais à Grasse ou à Menton, tu sais.
Enfin, aussi, hein, t'as un tribunal
Nanterre.
À Grasse.
Oui, mais bon, tu vois, course et jeu, il est à Nanterre. Hein.
Ça serait bien que ce soit diffusé, on pourra regarder.
Toujours pas. Merci Nico. Bonne soirée à toi. Très vite, plus d'éléments sur le site rmcsport.fr. Dans un instant, la suite et la fin de l'after. Tiens, vous allez me donner les trois joueurs que vous aimeriez voir. Aux Jeux Olympiques, les trois joueurs âgés de plus de 23 ans qui pourraient renforcer l'équipe de France de Thierry Henry.
Thierry Henry, Zidane,
de partout.
De 23 ans.
De partout ce soir face aux États-Unis. Restez avec nous, c'est l'after avec Daniel, Flo, et vous pouvez participer également à ce petit jeu au 32-16 sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamain.
Avec Daniel Riolo, avec Flo Gautreau. Merci d'être avec nous. Il est 23h49, 23h50 sur RMC. C'est l'after. Les amis, tiens, je voulais qu'on fasse ce petit jeu. On l'a fait l'autre jour, le tirage au sort des tournois olympiques de foot dans Génération After. Je voulais savoir si vos avis étaient différents par rapport à ce qui a été proposé. Les trois joueurs auxquels a droit Thierry Henry, trois joueurs de plus de 23 ans, on le rappelle, hein, c'est de U23 plus trois éléments, ce qui sont différents de l'équipe de France féminine. Là, c'est ouvert toute génération, bien sûr. Tiens, je commence avec toi, mon cher Flo. Quels seraient les joueurs que tu convoquerais, toi, aux Jeux Olympiques ?
Alors, j'ai choisi.
En étant réaliste, quand même, un minimum.
Oui,
Tchouaméni a tué le suspense pour les joueurs du Real. A priori, ils pourront pas. Voilà.
Autant je lui prédis pas un rôle de titulaire à 100% avec Léa, autant Olivier Giroud me paraît être un choix à la fois dans le profil et par rapport à sa carrière et voilà et pour l'image qu'il représente. Donc Olivier Giroud.
Giroud.
En deux, personnalité emblématique de la Ligue 1, l'ancrage club, la qualité technique, un pied hors du commun, Benjamin Bourigeaud.
Ok, ça tient. Et évidemment, on n'est pas surpris.
Et en 3,
Martin Terrier, évidemment.
Non, alors Terrier, j'aurais pu, mais bon, comme j'ai équilibré un peu.
Je peux faire.
Il y est déjà.
Merde.
Désiré Doué, il y est déjà. Non, N'Golo Kanté.
Ah, pas idiot.
Bah, il joue plus, Kanté.
Si, il joue, mais bon, voilà. Paraît qu'il est bien, il est en forme, en tout cas. Voilà.
Jimmy Brown m'a dit qu'il était en forme. Il regarde le.
Bien sûr, Jimmy Brown regarde le championnat saoudien, évidemment.
Le championnat saoudien.
Bien sûr.
J'ai fait un petit mix entre l'expérience, des postes différents, complémentarité, expérience, talent. Kanté, Bourigeaud, Giroud.
Donc on n'est pas sur trois lignes, ou presque. Non, presque.
Presque parce
pas de défenseur en fait. Voilà,
non,
c'est ça.
Non, pas de défenseur parce que j'ai entendu parler de Varane, mais.
Ouais, ça, sur le chat, on parle de Varane hein, ici.
Ça me paraît pas. C'est pas que c'est inutile, mais. J'ai pas la même Loris Varane, tu vois, avec la par exemple la qualité des jeunes gardiens français là.
Gardien pas nécessaire.
Pas nécessaire côté gardien. Donc, je me suis arrêté à ça.
Daniel.
Bah, moi je suis embêté avec cette histoire parce que on est d'accord qu'il y a une équipe qui joue.
Oui.
Elle existe cette équipe.
Mais il faut la renforcer. Il y a encore mieux ce soir.
D'accord. Donc il y a une équipe qui vit ensemble depuis pas mal de temps.
Ouais, ça bouge.
Et j'imagine que c'est vrai. J'allais y venir. Et on imagine que pour beaucoup de ces joueurs-là, bon, jouer les JO, ça doit être comme une forme de rêve.
Bien sûr.
Donc, t'arrives et tu leur dis, bon, bah, les gars, là, il y en a quelques-uns de vous, à vos postes, il y a de la pointure qui va arriver. Bah, je trouve que c'est un peu dur.
C'est le jeu. Tu le fais avec l'équipe de France de basket depuis des années, quand les mecs de l'NBA sont rapatriés. C'est dur, mais bon.
Je trouve que c'est dur. Donc, sur des postes où c'est pas clé, tu vois, où c'est, il y a pas de mec qui se détache vraiment et tout. Ok, je vois. Mais sinon, par exemple, Griezmann, je kifferais quoi. Je le mets dans mes trois. Sauf que là, s'il joue là, ben, bon bah écoute, oui forcément tu viens, t'es titulaire. Bon bah Cherki, allop, tu dégages.
Cherki n'est pas assuré d'y aller. Hein. Attention, hein. Il y a du monde. Hein.
Il est dans cette équipe.
Là, il a été rappelé parce qu'il y avait, il a remplacé
lui
un blessé.
Ou un oui. Mec qui traîne dans les espoirs depuis longtemps.
Ouais, mais ce que tu dis, Daniel, serait vrai si tu avais une sorte d'équipe type de qualif incroyable.
C'est pas
le cas. En fait, c'est pas le cas.
T'as pas
en
ça.
Fait, Henri, okay. Il est arrivé là-dedans, il a remis un coup de pied, enfin, entre guillemets, dans la fourmilière. Ça va, ça vient, il prend Cherki, il le reprend pas. Franchement, personne
donc,
va hurler.
T'as pas le sentiment qu'il prenne la place de quelqu'un.
Pas vraiment.
Bon.
Et surtout, les règles sont établies. C'est-à-dire que les gars qui, déjà, sont
ouais,
pas des titulaires indiscutables.
Mais t'en as certains postes, tu sais que leur porte va être fermée, tu les empêcheras pas de penser.
Ah ben c'est sûr que
la porte est fermée.
Si Giroud arrive, je te confirme.
Ah ben voilà, donc, alors, et j'allais venir à Calvino le dernier. Et Giroud, c'est vrai que ce serait une sorte de belle histoire terminée par les JO avant de se barrer.
En Californie.
Californie. Calvino, en gros, lui, ça fait un moment qu'il est chez les espoirs. Bah, mon gars, allez hop, il y a un titulaire, c'est Giroud, forcément, il arrive, voilà. Je trouve que c'est un peu dur cette histoire-là. Maintenant, si tu veux vraiment trois noms, bah oui, moi je prends Kiki, Griezmann et
Mbappé
et Giroud. Bah oui,
c'est pareil, c'est Mbappé. Voilà.
Pourquoi c'est pareil?
Non, parce que le Real.
Il va prendre un stop du Real.
Ah mais non, mais je crois que tu m'avais pas. Tu avais pas
oui,
dit
non mais
conditions.
Là, c'est ta liste idéale, mais avec des conditions réalistes.
Moi, j'ai avec les conditions réalistes.
Là, faut taper en Ligue 1, parce que la queue de Ligue 1 vont jouer le jeu.
Avec les conditions réalistes, à part en Ligue 1.
C'est ce que je dis.
Les autres clubs.
C'est pour ça qu'il est allé taper Rennes, Bourigeaud. Tu peux penser à on nous dit Pierre Lesmelou également sur le chat.
Moi, je demande à Savanier alors.
Non,
est-ce
il
que tu as envie
fait.
De venir
ouais, il a fait à Tokyo, fait. Compliqué.
Ah ouais, ça
va. Déjà fait, faut faire tourner là.
Je sais pas.
Et qui les deux autres d'ailleurs?
C'est une bonne question.
Bon, bah, écoute,
bah si, si, t'avais Gignac à Tokyo.
Et Gignac, exact.
Et Gignac, Savanier et Flotte.
Ah
oui,
ouais,
et Tokyo.
Ouais, non, c'est une erreur.
Ouais, je veux prendre les Rennes de Flo alors parce que.
Et pourquoi pas la Cazette? On nous dit la Cazette également. Parfait, puisque Deschamps n'en veut plus.
Très bonne idée.
Ah, la Cazette, c'est une très bonne idée.
Mendo, tu dégages.
Bah oui, bien sûr, oui. Mais bon.
Ah bah.
Oui, c'est dur, mais bon. Tu veux être champion olympique.
C'est
hein,
pour ça que ce système-là, je le trouve un peu. Ouais, mais en gros, t'as des mecs qui viennent se mêler d'une compétition.
Il sera l'entrant.
Ils viennent se mêler d'une compétition qui est pas pour eux.
Il sera l'entrant et puis ça va tourner. Et
t'auras
un troisième match peut-être où t'es déjà qualifié. T'as des tas de trucs.
Ouais.
Laurent est avec nous. Il voulait
participer. Je ne vais jouer que des U23 et basta.
Salut Laurent, bienvenue dans l'after.
Pas le bricolage.
Salut. Je vais essayer de faire une petite introduction de 40 secondes.
Vas-y.
C'est depuis 1992 qu'on a le droit maintenant d'avoir trois joueurs et c'est interdit aux moins de 23 ans. Parce qu'avant, c'était un peu comme on voulait. Quand on gagne en 84 les JO, c'est la seule fois où on les a gagnés. Mmh. C'était un peu l'équipe B de l'équipe de France. C'était les URL, les Rohr, les Lacombe, etc.
Jean-Philippe Rohr.
C'est voilà. Ça.
Depuis, les seules équipes qui ont été un peu tactiques, ça a été le Cameroun en 2000 et le Mexique en 2012 qui ont été un peu tactiques, à part l'Argentine de 2004-2008 où là, ils mettaient leur star. Moi, je pose une seule question. Est-ce qu'on veut qu'on les gagne, ces JO? Depuis plusieurs semaines, je n'entends que des consultants, que des journalistes qui font leur liste comme ça. Daniel, ce soir, est le premier ce soir que j'entends poser cette question fondamentale. C'est quoi l'équipe en place? L'équipe en place actuellement, les gars, en attaque, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a du Wai, il y a du Kalimuendo, il y a du Tel, il y a des joueurs comme ça. On a
du Barcola.
Il y a du Barcola.
Ah, il a blessé le pauvre.
Audobert également.
Ouais. Cette équipe en milieu de terrain, avec du Doué.
Attends, Audobert, il n'a plus une biscotte aujourd'hui.
Elle est plutôt pas mal, avec du Yakliouche, dont vous parliez tout à l'heure. c'est en défense que l'équipe est pas bonne. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait une réflexion. Alors, ce soir,
de toute façon, notre équipe espoir, elle est pas bonne. Ça fait des années qu'elle est pas bonne.
Mais elle est pas bonne depuis des années. Mais si on veut essayer de gagner les JO, faut peut-être se poser la question de quels seraient les trois joueurs qui pourrait apporter un plus à l'équipe.
C'est ça.
Il y a 4 ans, on a fait n'importe quoi en mettant du Savagnier, du Gignac.
Mais attends, on a fait ce qu'on pouvait il y a 4 ans. T'es pas d'accord que si tu mets N'Golo Kanté, Bourigeaud et Giroud, t'apportes quelque chose à l'équipe?
Bah non, moi je te mets un défenseur, c'est en défense que ça va pas.
Bah non, de toute façon, Kanté, t'en sais rien, tu sais pas dans quel état il est et tout.
Il a raison, c'est en défense que c'est compliqué.
Tokyo, vous savez que je me souviens, alors moi les JO, je me souviens pas de...
2021.
Oui, quoi, on sort pas des poules, on perd contre le Japon en troisième match, on se humilie.
On sort pas des poules, mais vous savez pourquoi les gars...
Takekubo et...
Je m'en souviens même pas de cette compète.
Les gars, il y a 4 ans, c'était une catastrophe parce que...
Le problème, c'est que tu vas à la plage en ce temps-là.
Laissez parler Laurent.
Les gars, il y a 4 ans, c'était une catastrophe parce que... Il y a 4 ans, on a fait ce qu'on fait depuis pas mal d'années. Le pot de fond, on est allé au JO, c'est qu'on a offert une consolante, ce que j'appelle une consolante, à des joueurs. Cette année, par exemple, la Cazette, ce serait une consolante. Deschamps ne veut pas te prendre, on va te mettre au JO.
Ouais, t'as raison sur ce point, c'est vrai.
Si on veut les gagner, les JO, il faut réfléchir à quels seraient les 3 mecs qui peuvent vraiment amener une plus-value à cette équipe pour qu'éventuellement on puisse gagner des JO.
Alors que là, on ne fait
moi, genre les cadeaux. Je suis pour des mecs qui n'ont jamais joué en équipe de France aussi, qui n'ont pas le sentiment à qui qu'on leur fait un cadeau.
Qu'ils soient bons.
Des Santa Maria, Bourigeaud par exemple, Martin Terrier, c'est l'exemple typique.
Vous tapez tout ça.
Martin Terrier, tu peux savoir, c'est un mec qui va se donner à 200%.
En faisant ça, tu fais une consolante aussi. Comme dit Daniel, il faut qu'il soit bon. Moi, j'ai pas besoin que ce soit une consolante. Moi, je veux qu'on les gagne, les JO. Est-ce que l'équipe de France a besoin d'attaquants aujourd'hui? Est-ce que l'équipe de France a besoin de Giroud, Griezmann ou Mbappé? Objectivement, c'est pas en attaque qu'on est faible. En attaque, on a plutôt des bons joueurs.
Ouais, t'es pas génial.
Sur le terrain, on a des choses pas mal. Et c'est en défense, c'est la catastrophe. Et si on veut vraiment gagner les JO, puisque apparemment, c'est la volonté aussi gouvernementale avec tout ce qui est fait actuellement, il faut réfléchir à ça. Et j'aimerais bien, là, ce soir, on n'aura pas le temps. Mais
ils vont pas emmener Warren pour le milieu? Il a pas dit qu'il y allait?
Warren, c'est une bonne idée aussi. A priori, il va pas avoir un énorme temps de jeu à l'Euro.
Je pense que Warren, il va y aller. Il a l'âge, lui, pour y aller. C'est lui qui devrait y être.
Il est même pas dans les 3, plus de 23 ans, Warren, en fait. Tu vois, il peut rentrer dans la liste comme ça. Tu vois, c'est pas un joueur de
jeu. Dans un milieu où t'as Manu Koné, Warren et un autre, ça commence à avoir de l'allure un peu.
Ouais, c'est vrai.
Il faudrait creuser, mais je crois que c'était en 2012 quand le Mexique gagne les JO. Alors, si je dis pas de bêtises, ils avaient pas pris Ochoa, tout ça. Parce qu'en fait, à l'époque, le Mexique avait dit, mais on veut les gagner. Donc, on a pris les 3 joueurs qui allaient apporter une plus-value à notre équipe, pas les 3 stars mexicaines sur le retour qu'on emmène aux JO.
C'est vrai. Voilà, merci Laurent. Tu es un historien des Jeux Olympiques, j'ai l'impression. Merci pour ton éclairage.
Fan de foot surtout les gars.
En 2021.
Merci Laurent. Très bonne soirée à toi. Très vite sur RMC.
Laurent parlait de défense, il a raison parce que en 2021, j'ai regardé, on a pris 11 buts en 3 matchs.
3 matchs. Donc, catastrophique.
J'ai de souvenirs d'aucun.
Dans des salles vides au Japon.
Ils ont gagné miraculeusement un match 4-3 contre l'Afrique du Sud. Ils ont perdu les 2 autres 4-1.
Contre l'Australie, c'était, je crois. Oui, tout à fait. Bon, voilà les amis, c'est terminé pour l'after demain. On sera là pour le France-Chili, attendu.
El Chile, no es un cagón.
Dès 20h, l'after live, et puis l'after le débrief dans la foulée. Bonne soirée à tous sur RMC. Bye bye.
RMC, l'after foot.